Amazonie, comment as-tu fait pour sauvegarder l'inespéré à l'ombre mauve de tes buissons? Ces hommes libres qu'on croyait morts depuis longtemps, où les avais-tu cachés? Tandis que d'autres venaient ouvrir les routes, bâtir les villes, jeter les ponts et renverser les grands cèdres dressés comme des îlots dans le moutonnement des feuillages où les oiseaux et les singes dormaient depuis la nuit des temps. Depuis que je suis arrivée dans le parc du Yasuni en Amazonie équatorienne, je promène cette question. La confrontation entre l'industrie pétrolière et ses clans de nomades refusant tout contact avec notre civilisation a quelque chose de brutal et d'absurde qui me donne l'impression de traverser un rêve, un de ces drames silencieux qui se jouent à mi-clos dans une jungle sans témoins.
Anne Cibran, Le Cercle Sauvage. Voyage en Amazonie équatorienne. Septième épisode. Le chant donné à la forêt.
Je serais sûrement restée dans ce flou si je n'avais rencontré, sur cette photo arrivée je ne sais trop comment dans le bureau d'une fondation, le visage de cette petite nomade, Taona, qui a survécu au massacre de son groupe. Ce fut comme si l'existence de cet enfant, de ce peuple, rassemblait les fils épars de mes voyages, révélait le cœur de mon élan. Cet enfant réveille une autre façon d'être au monde, ensevelie jusque-là dans l'humus de mes lignées. Elle ouvre surtout l'espace bouleversant d'un vis-à-vis, qu'il me semble impératif, aujourd'hui précisément, de partir explorer. Ne serait-ce que pour honorer son surgissement du néant, ne pas le cantonner aux faits divers, à une dispute de spécialistes. Toutes ces supputations désespérées qui voudraient en faire un peuple mort avant d'avoir seulement mesuré ce que cela implique pour nous, de les savoir encore vivants.
Bien joué, Anita, allez, viens.
Non merci, je suis fatiguée, je préfère vous regarder.
Me voici à nouveau entrée dans le petit univers d'une communauté indigène, avec ses personnages, ses règles, son acoustique, ses temps de convivialité pour donner à entendre le rire de chacun. Je suis à Yewepare, un village Waorani, dans la famille de Nenkimo. Exploité par les pétroliers, leur territoire est à 3 heures de coca environ. Un bus poussif y conduit 2 fois par jour. À l'approche de la communauté, on trouve cette pancarte. Bienvenue au bloc 14, plateforme Pinto. Respectez l'environnement. Les pétroliers omettent de citer le nom du village et le fait que l'injonction écologique s'adresse sans doute à eux d'abord, les rivières n'étant plus potables depuis leur arrivée. D'après les anthropologues, les Waorani de Yewepare habitent ce territoire depuis plus de 5000 ans. Déplacés dans une réserve, comme la plupart des clans, ils n'ont pu revenir sur leur terre ancestrale que depuis quelques années. Ils l'ont trouvée percée de routes et de plateformes. Nenkimo, mon hôte, est le fils d'une grand-mère illustre, Maka. À vrai dire, je suis surtout venue pour elle, car on m'a dit qu'elle allait parfois dans la jungle chanter pour les non-contactés. Pour l'instant, Maka somnole dans un hamac, tandis que le village se livre au rite sacré du crépuscule. Le football intergénération. Tous les soirs, après l'école, le travail, au retour de la chasse ou des champs, les familles de Yewepare se rassemblent derrière les bâtiments préfabriqués où se trouve le terrain de football. Les anciens sont dans les buts ou assis en spectateurs sur des chaises en plastique. Les enfants jouent à l'arrière. Les adultes et les plus valeureux se répartissent les places d'attaquants. Wilson, le fils de Nenkimo, est venu m'accueillir à la descente du bus. Il prête tant de qualité aux Occidentaux qu'il est persuadé que je joue aussi bien que les jeunes filles qui galopent devant nous.
Tu la vois ? Elle, là-bas, avec le t-shirt jaune, c'est ma cousine. Elle court plus vite que les hommes. Allez, Anita, viens jouer avec nous.
Mais Wilson, moi je cours à peine aussi vite qu'un enfant.
Le football Waorani tient à la fois de la joute amoureuse et du rite initiatique. Jeu sacré où l'effort est porté jusqu'à ses limites extrêmes, sous la bienveillance des adultes qui se retirent peu à peu, terrassés de fatigue, pour laisser le terrain aux adolescents, ravis de montrer leur adresse et d'asticoter leurs prétendantes. toute la cohésion d'une société traditionnelle, sachant utiliser au mieux les forces et les aptitudes de chacun, se voit ici à l'œil nu, tandis que les perroquets survolent le stade, que le soleil se roule derrière les feuillages, que se raréfie le passage des camions. Tout le monde est parti se baigner à la rivière. Sans les vibrations du générateur, là-bas derrière le bouquet d'arbres, on pourrait se croire dans une jungle à peu près préservée. À la nuit tombée, je suis surprise de constater qu'il n'y a de l'électricité que pour la route et la maison moderne où est rangé le matériel de la compagnie. Les villageois s'assoient autour des réverbères. Ceux qui peuvent se le permettre allument des bougies.
Ça t'a plu ?
Énormément.
Alors demain, même si tu cours comme un enfant, il faudra jouer avec nous. Mais on va aussi aller voir les anciens. Tu dois savoir comment on vit ici. La plupart ne parlent pas espagnol. C'est moi qui ferai la traduction. Mais tu dois savoir, Anita, que si toi, tu as des questions, moi aussi j'ai des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Nous, on est pauvres. On n'a rien devant nous. Si on me demande dans 4 ou 5 ans qu'est-ce que tu deviens, je ne sais pas quoi répondre. Quand ma grand-mère va mourir, quand les anciens ne seront plus là, qui gardera nos traditions vivantes ? Et d'ailleurs, pourquoi faire ensuite ? On n'a plus de forêt, ni de bêtes. En vérité, on n'a plus rien.
J'ai tendu mon hamac au-dessus du matelas défoncé où deux petites filles cherchent le sommeil parmi la bourre et les ressorts. Je les survole, sursaute quand elles rêvent, reçois parfois les coups de pied d'un cauchemar ou la main qui tâtonne pour chercher la porte. 12 personnes dans 35 mètres carrés, serrées sous un toit d'aluminium, entre des planches imbibées de pétrole récupérées dans les chantiers. Maka habite à côté dans une cahute de palmes. Elle chante. Tout à l'heure, sous la maison, j'ai aperçu un chien noir grouillant de vert, couvert de blessures. Il essayait de s'approcher, mais son odeur était si terrible que tout le monde le chassait.
Il y a 3 jours, les sangliers sauvages sont venus près de la maison. Ils auraient pu tuer un enfant ou voler notre manioc. Les chiens les a attaqués et il a réussi à les faire fuir. Mais bon, maintenant il va mourir.
Je retrouve ces trous d'air, cette incompréhension que je ressens parfois quand je suis plongée dans une autre culture. Si le courage du chien a été reconnu, c'est comme s'il était déjà mort. J'ai l'impression d'être la seule à l'entendre qui gémit. Je monte poser mon sac. Nankimo m'accompagne. Il sort une clé pour ouvrir sa chambre. Cette porte en fer avec serrure est le seul luxe de la maison.
Je ferme car les vols sont fréquents au village.
Nankimo est le chef de famille. Marié avec la fille de Maka, il est venu vivre sur le territoire ancestral de sa belle-mère.
Pour l'instant, je suis en vacances. On va pouvoir faire des choses, Anita. J'ai beaucoup de temps.
Être en vacances à Yawepare, c'est avoir terminé un contrat de quelques semaines avec la compagnie pétrolière et vivre dans l'espoir d'être réembauché. Un moyen très sûr pour les employeurs d'éviter toute contestation au sein de la communauté et de maintenir les Waorani en état de dépendance. Demain, Nankimo saura déjà repartir ramasser les ordures. Vers 4 heures, on entendra le téléphone sonner et il sortira en courant. Mais pour l'instant, allongée dans son hamac, la vieille Maka chante. Elle célèbre les passages de la nuit, ce monde retourné à son ventre quand la forêt éteinte ranime ses mémoires. Paroles des bêtes et des esprits qui coulent entre les arbres et que le chant rassemble, enroule à ce fil d'attention. Cette vibration tranquille qui emmène les nomades depuis la nuit des temps, leur fait traverser la nuit jusqu'au retour de la lumière. « Je ne parviens pas à dormir. Ce n'est pas la chaleur, mais l'odeur qui provient des sacs de farine animale entreposés autour du lit. Régulièrement, les ONG viennent dans les communautés indigènes proposer des plans de développement. Voilà comment la famille s'est trouvée lotie de 250 poussins. Habitués à traquer le dindon sauvage ou le singe hurleur, ces anciens nomades doivent s'improviser éleveurs de poulets vaccinés, nourris de farines industrielles et serrés sous une bâche de plastique, dans une jungle où la température dépasse les 35 degrés. Et toi, Taona, petite nomade, est-ce qu'il y a encore des grands-mères pour chanter la traversée de la nuit dans le village où tu vis maintenant ? Dois-tu supporter ces odeurs terribles, ces sucres, ces graisses, ces musiques fortes autour des épiceries où l'on vend l'alcool et les cigarettes ? Est-ce qu'on vous a aussi volé votre nuit ? Son silence, troublé par la vibration permanente du groupe électrogène, avec la lueur orangée des brûleurs pour décourager l'obscurité et charger les nuages de vapeurs méphitiques. Et toi, Taona, petite nomade, qu'est-ce qui t'attend dans ce monde-ci ? J'ai trouvé ce matin le chien mort, au festin déjà des insectes et des oiseaux. Comme Nenkimo est parti travailler, Wilson propose de m'emmener pêcher à la rivière. Toute la famille vient avec nous.
Ici, la forêt est vivante. Il reste encore des endroits où on entend les singes et les oiseaux.
Je vois surtout que les grands arbres ont disparu. Les bois précieux ont été emportés depuis longtemps. Mes hôtes avancent vite. Derrière eux, je trébuche. Je n'ai pas le même rythme. Cet instinct a posé le pied au bon endroit, à trouver ce balancement qui accompagne le corps dans la pente, le retient sur les boues glissantes quand on redescend dans les combes. Sentier de feuilles rouges, les abeilles sauvages d'un arbre creux viennent nous butiner. Les racines ligneuses font parfois des escaliers. Champignons blancs, comme des boutons de nacre cousus sur l'arête d'un tronc.
On parle des nomades comme si c'était des sauvages cruels et dangereux. Alors que ce sont eux les vrais écologistes. Ils défendent la forêt. Ils la protègent des maladies en empêchant qu'on pénètre chez eux. Ils savent entendre la voix des esprits. Leur chaman entre encore dans le corps du jaguar. Nous, depuis qu'on est civilisés, on attrape beaucoup de maladies. Ils nous voient comme des blancs. Ils nous surnomment aussi les Kowori, les cannibales.
Ils viennent parfois ?
Oui. L'an dernier, tout un clan est venu dormir derrière la maison. Notre village est sur le sentier de la colline, où sont les palmiers Chonta, qu'ils ont semés depuis des siècles. Chaque année, ils passent pour ramasser les fruits et chasser les singes qui viennent aussi pour la récolte. Mais ils connaissent ma grand-mère. Ils savent qu'ils sont en sécurité.
Ta grand-mère est allée les voir ?
Non. Ça, c'est plus possible. Mais elle a chanté pour eux.
L'eau est tiède, à peine fraîche. Falaise de glaise sombre que les karachama, des petits poissons, ont creusé avec leur tête pour se faire un abri. Les mains des enfants farfouillent dans les trous pour brandir un poisson frétillant qu'ils tuent entre leurs dents pour l'enfiler ensuite à un fil d'écorce. Tout ça sous la vigilance sérieuse des bébés nus et potelés, rafraîchis par la baignade. Tout à l'heure, marchant derrière une maman, j'étais troublée de voir la chair tendre du nouveau-né promener au ras des épines, des sèves urticantes, d'insectes, dont la moindre piqûre pourrait tuer l'enfant. La confiance qu'éprouve la mère pour la forêt a quelque chose d'immémorial. L'enfant y puisera une audace qui grandira avec lui certainement. « Il y a une cinquantaine d'années, des missionnaires capucins avaient tenté le contact avec un clan de Waorani. Dans une clairière, cinq guerriers toisaient farouchement les hommes en soutane. Ils ne semblaient pas vouloir des cadeaux déposés devant eux, reniflant les missionnaires avec dégoût. On les sentait nerveux, prêts à bondir avec leurs lances. Enfin, un des Waorani parla. Il voulait que les missionnaires se dénudent, enlèvent ces peaux malodorantes qui leur cachaient le corps. Pourquoi ? Demanda un missionnaire. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que vous pensez vraiment. Au moment où les missionnaires se déshabillent, la forêt qu'ils avaient tenue à l'écart prend aussitôt sa place dans le dialogue. Elle les fait frissonner. Pour les nomades, l'homme ne serait pas entier sans cette immersion totale dans le milieu où il vit. Se montrer dans sa vérité, c'est d'abord en témoigner par le corps. Cette part de peau qui ne respire pas la boue, ne reçoit pas la pluie, n'est pas mordue par les épines ou par les insectes, est comme une grimace escamotée sous le tissu, un mensonge. L'âme se montre aussi sur la peau. L'homme véritable est celui qui peut tout accueillir. La lance de l'ennemi, le regard de l'autre ou le vent. Sa vérité est dans cette ouverture. Et cela vient avant les mots, le prélude à tout échange, à toute rencontre. Trempés d'abord dans le même bain. Elle est là, devant moi, cette grand-mère immémoriale, qui pourrait être la mère de toute l'humanité. Comme beaucoup de nomades, Maka est sortie de la forêt chassée par la guerre. Mais le temps, notre monde, n'ont jamais su la rattraper. Elle vit en suspens, chantant pour chaque geste, au moindre cri d'oiseau. Quand un souvenir remonte et qu'il faut le faire vibrer, elle est cet arbre tiède où se perchent les petits, où s'endorment les bébés. Celle qui se trempe avec les chiens dans la cendre une fois le repas terminé. Celle qui marche à son heure, avant ou après les autres, mais jamais en même temps. Les pieds de Maka se déploient en fleurissant comme une main. Ligneux, épais, ses orteils ont aussi la délicatesse des doigts de la grenouille. Sages et expertes, les mains de Maka ont touché toutes les plantes, tous les arbres de la forêt. Ce sont elles encore qui ont tissé, modelé, tiré l'enfant à naître, plumé des centaines d'oiseaux, dépecé des troupeaux de sangliers et de singes. Ces mains-là semblent avoir une vie à part, écouter quand ça leur chante et rêver la plupart du temps. Maka m'interroge pour Taona. Je suis surprise qu'elle connaisse son prénom. Quand je lui décris le visage de l'enfant que j'ai vu en photo, ses yeux se remplissent de larmes.
Elle connaissait sa mère. C'était la fille d'un de ses frères. Maka et Taona sont de la même famille, certainement.
La nouvelle me surprend. Et pendant un moment, nous nous trouvons face à face, émues et silencieuses. Dans ce silence, quelque chose passe discrètement, comme un vent. Jamais les nomades ne m'ont semblé si proches. Je demande à Maka si elle se souvient de la première fois qu'elle a vu des blancs.
Elle dit qu'elle vous prenait pour des diables, vous les blancs. Elle vous apercevait là-haut dans des gros oiseaux bruyants qui lâchaient des sacs de riz, de farine, des poulets, du sel. Elle dit aussi, on gardait tout ce qui tombait du ciel, mais on n'osait rien toucher, rien manger. Sauf mon frère. Un jour, il a voulu goûter les œufs que les poules faisaient un peu partout dans la maison. Il en a cassé quelques-uns pour les mélanger avec du manioc. Quand tout le monde se méfiait, on l'avait attaché à un arbre. On redoutait que ses œufs le rendent fou. Il est resté ligoté comme ça une journée entière. Cette drôle de nourriture lui a fait un peu mal à la tête. Mais il a survécu. C'est comme ça qu'on s'est mis à manger des œufs de poule. Elle dit encore que maintenant qu'elle mange salé, les animaux s'en rendent compte et ne s'approchent plus comme avant. Même le kata, son ami Faucon, ne vient plus aussi près.
Et vous n'avez plus de contact avec votre famille restée dans la jungle?
Une fois qu'on a quitté le clan, on ne peut plus y retourner, sous peine de mort. Mais elle continue à communiquer avec eux.
Comment?
Tu vois là, ces petites poteries comme des bols. Elle y met des colliers, des plumes, des bracelets, des cadeaux.
Et qu'est-ce qu'elle en fait ensuite?
Elle les pose sur leur chemin. Chaque clan a ses chemins depuis toujours. Ma grand-mère sait toujours où ils sont. En fonction des saisons, du mûrissement des fruits, du déplacement des bêtes. Alors, quand vient le temps de leur passage, elle s'approche des chemins pour chanter.
Qu'est-ce qu'elle chante?
Elle chante « Restez dans la forêt. La forêt vous soigne et vous guérit. Ici, les enfants sont malades. » Elle chante « Notre vie d'ici » pour que les nomades n'aient pas envie de quitter l'ombre des arbres. Elle leur envoie aussi comme des bénédictions et des nouvelles des autres clans. Elle sait que même s'ils ne sont pas assez prêts pour l'entendre, la forêt prendra son chant pour les porter jusqu'à eux.
Lorsque je suis à Quito, une à deux fois par semaine, je vais rendre visite à Vera Kuhn. C'est une vieille amie psychanalyste jungienne qui vit dans une maison art déco remplie d'archéologie précolombienne et de plantes dans la Lizardo Garcia. Ce jour-là, nous prenons le thé sur la terrasse et, comme souvent avec Vera, nous nous taisons. Devant nous, le grand pin du jardin écarte ses branches, reçoit le vent. L'orage approche et l'arbre semble impatient de recevoir la pluie.
Pour tes nomades, il n'y a aucune différence entre cet arbre et eux. C'est la même âme, la même vie. Pour nous occidentaux, l'homme et l'arbre, ça fait deux. On se regarde sans se parler, sans se comprendre. On a perdu l'unité. Mais il y a une troisième voie, l'entre-deux, l'intervalle. Non pas se perdre dans la fusion, ni dans la séparation, mais envisager le lien. Comme maintenant, avec cet arbre. Habiter cet espace qu'il y a entre moi et lui. J'ai fait ça l'autre jour dans la forêt. Au lieu de la percevoir à partir des arbres, j'ai mis toute mon attention sur l'espace entre les troncs, entre les branches. C'est autour de l'arbre, dans ce vide, que j'ai senti vraiment très fort la qualité de la forêt. Et comment elle nous parle.
Qu'est-ce qui m'empêche, à l'exemple de Maka, d'aller laisser un chant aux frontières de la zone intangible? Un chant pour célébrer le miracle de nos deux vies si différentes, déployées sous un même ciel. Un chant confié à la forêt, pour qu'elle le fasse courir entre les arbres et remonte jusqu'à toi, Taona, petite fille nomade. Et peut-être que ce chant saura te retrouver.
Le cercle sauvage de Anne Sibran. Septième épisode. Avec
Chloé Réjon,
Vladimir Beltrán,
Alonso Venegas Flores,
Andrea Schiffer.
Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Julie Briand, Vivien Demeyer. Réalisation, Laure Egorov.